18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM et les amoureux de Time Sport, votre rendez-vous sportif quotidien que vous pourrez retrouver du lundi au vendredi de 18h à 19h. Aujourd'hui au programme, on vous a réservé plein de choses, notamment la Ligue Europa, Rennes qui affrontera Arsenal en 8e de finale. On reviendra sur le match d'hier également, cette qualification. On va également parler du Paris Saint-Germain qui souhaiterait priver Adrien Rabiot de sa prime d'éthique. Enfin, on aura un invité également qui nous fait le plaisir d'être en studio, Ruben Gouveia, champion de boxe. On reviendra sur son parcours avec lui en studio. Ensuite, on parlera évidemment de la direction du Paris Saint-Germain qui a officialisé ce matin la conclusion d'un accord de sponsoring avec le groupe Accor. Et enfin, pour terminer, on parlera du jeune Maxime Lopez, le jeune métronome de l'OM qui reste sur 9 titularisations d'affilée en Ligue 1. C'est parti pour une heure de sport.
Time Sport.
Et oui, et pour nous accompagner aujourd'hui, Saïd Hamda. Comment ça va, Saïd ?
Ça va super, Guillaume, et toi ?
Écoute, ça va. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent aussi, ils vont bien avec ce soleil qui nous accompagne en ce mois de février, bientôt mars. Olivier G, comment ça va, Olivier ?
Ça va bien, bonsoir à tous.
Écoute, au top. Mariama Benrabia qui nous fait le plaisir aussi d'être dans le studio aujourd'hui. Ça va, Mariama ?
Bonsoir, ravi d'être là parmi vous.
Brice Taïb, comment ça va ?
Bonsoir, Guillaume, parfaitement.
C'est pas Boris, hein, tu vois ? Là, je me suis pas trompé. Tu voulais savoir. Et l'invité, évidemment, Ruben Gouveia. Comment ça va, Ruben ?
Ça va. Merci, en tout cas, de l'invitation.
Merci à toi d'être présent aujourd'hui. On va revenir sur ton parcours en deuxième partie d'émission. On va commencer dans un premier temps à parler du Paris Saint-Germain et de l'amour vache entre le club et Adrien Rabiot. C'est parti pour le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, le ras-le-bol, décidément, c'est l'amour vache entre le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot. Selon les informations du quotidien L'Équipe, le club de la capitale souhaiterait supprimer la prime d'éthique en pourcentage du salaire que le club peut soustraire en cas de mauvais comportement. Forcément, il n'a pas participé, faut le rappeler, au stage qui se déroulait du 13 au 17 janvier dernier. Donc, ça intervient après cet événement. C'était à Doha, au Qatar. Comment réagir ? Est-ce que supprimer une prime d'éthique pour une absence justifiée et acceptée semble un peu injuste ? Mariama ?
Oui, alors je vais commencer. Juste une chose d'abord que je vais rappeler. Le PSG avait justifié cette absence. Oui. Donc, il l'avait acceptée dans un premier temps. Il faut rappeler quand même qu'il avait perdu sa grand-mère à ce moment-là. Donc, a priori, le PSG l'avait accepté. Donc, lui refuser la prime d'éthique plus tard, après coup, je trouve ça complètement déplacé. Il l'avait déjà fait avec Ben Arfa. C'était il y a deux saisons. Et aujourd'hui, donc, ils veulent rééditer la chose avec lui. Donc on se pose la question, en fait, est-ce que c'est finalement une sanction pour autre chose ? Mais pourquoi le justifier par son absence au stage au Qatar ? C'est la question qu'on se pose. Je pense qu'il y a vraiment autre chose qu'on nous cache, enfin qu'on nous cache entre guillemets, mais c'est plus une sanction autre que réellement son absence au stage.
Brice-Aïb.
Je suis d'accord avec Mariama, je pense que, en fait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait une politique. Là, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Effectivement, sa grand-mère est décédée, le club a accepté, et maintenant on nous dit qu'il n'aurait pas le droit à la prime. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je pense que, moi pourtant, je l'ai dit ici dans ce studio, que moi j'étais d'accord avec la sanction contre Adrien Rabiot, qui a, selon moi, qui n'a pas respecté le club. Maintenant, s'acharner à tel point, enfin, je pense qu'il faut arrêter. Rabiot a été écarté. Ça va être une galère pour lui de retrouver un club par rapport à ses ambitions, puisqu'on sait qu'il veut pas Tottenham. Le Barça, ça va être compliqué maintenant avec Frankie de Jong. Il est quand même suffisamment en galère comme ça. Ça sert à rien de tirer sur une ambulance.
En tout cas, cet énième incident qui intervient dans le conflit qui l'oppose à son club, le Paris Saint-Germain, n'est-il pas celui de trop qui vire à la mauvaise pièce de théâtre, Saïd ?
Non, parce que l'épisode de trop, il est passé depuis longtemps. Et je vais mettre beaucoup de réserves sur cette information, parce que selon L'Équipe, on sait que L'Équipe et le Paris Saint-Germain ne vont pas bien ensemble et que le Paris Saint-Germain a beaucoup fermé, a fermé le robinet pour L'Équipe. Donc, ça ne me choquerait pas que L'Équipe sorte quelques rumeurs. Donc, je vais mettre quand même beaucoup de pincettes. Vu comment le Paris Saint-Germain est fermé pour L'Équipe, je ne sais pas d'où ils sortent ce genre d'informations. La prime d'éthique, comme Mariama l'a dit, pour le stage au Qatar, c'était totalement justifié. Il avait un décès dans sa famille. Le Paris Saint-Germain en a pris conscience et a accepté de ne pas le laisser venir. De toute façon, ça ne change rien d'un point de vue sportif parce que le Paris Saint-Germain ne compte pas sur lui à l'heure actuelle. Donc lui retirer cette prime qui est du plus est, qui est automatique. En fait, il suffit juste de bien se comporter pour la recevoir, et on la reçoit pas quand on se comporte mal. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, maintenant, il a arrêté de s'exprimer. Il est dans son coin. Il sait que l'aventure PSG, elle est terminée, va finir l'année. Maintenant, si le PSG veut faire des petites économies sur une prime comme celle-là, ça m'étonnerait, mais bon, ça serait bas, mais je pense pas que ce soit le cas, tu vois.
Olivier.
Rumeur, par rumeur, perso, moi je m'en fous, dans le sens où ça fait des mois que l'histoire de Rabiot, faudrait le laisser un peu tranquille maintenant. Je pense qu'il a déjà payé ses mauvaises déclarations pendant la Coupe du Monde, il a déjà payé son envie de partir sans re-signer, tout le monde lui fait payer, moi-même, hein, à un moment donné, je me disais, mais pff, quel manque de maturité, mauvaise communication, la maman qui prend trop de place, mais à un moment donné, je pense qu'il faut le laisser tranquille. Je pense que Mariama et Brice l'ont très bien dit, son absence au Qatar était plus que justifiée. Je pense qu'à un moment donné, on arrive à un espèce de combat de coq de qui va avoir le dernier mot. Est-ce que c'est le Qatar? Est-ce que sincèrement, je trouve ça absolument ridicule. Laissons-le tranquille. Il va partir de toute façon en fin de saison. On le sait. Que ça se finisse bien. On peut peut-être aussi partir sur une histoire où ça pourrait se finir bien, mais non. A priori, c'est trop compliqué pour ça.
D'ailleurs, très belle transition. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer finalement, Mariama? Parce que il y a un bras de fer qui continue malgré tout.
Moi, je crois que de toute façon, c'est déjà Rabiot qui est sorti vainqueur de tout ça, puisque finalement, il va partir en fin de saison libre. Donc, il a gagné.
Est-ce qu'il arrivera à retrouver un club? C'est ça aussi la question.
Il retrouvera un club, ça, c'est pas le problème.
Il va retrouver.
Maintenant, lequel et dans quelles conditions? C'est surtout ça la question.
Le truc, c'est que lui, il rêve du Barça, et c'est vrai que sa mauvaise com,
c'est mort.
Ça paraît compliqué, du coup. Mais il retrouvera un club. Mariama a raison, il a 50 clubs qui vont lui courir après.
Après, est-ce qu'il va retrouver un club qui va lui permettre de grandir aussi, puisque maintenant, il a cramé l'option Barça? Quel grand club de l'équivalence du PSG a besoin d'Adrien Rabiot aujourd'hui? Aussi, Rabiot paye. Oui.
Juste une chose, lui, il dit que c'est pas terminé au Barça, hein, qu'il a la proposition, qu'il a juste à.
Oui, c'est normal, hein, il va pas trancher dans le vif en disant le Barça m'a dit au revoir, mais là, le Barça
en
recrute un joueur.
En tant que joueur libre, je pense qu'il y a plein de clubs qui l'accepteraient. Maintenant,
oui,
il sera peut-être remplaçant.
Il est exigeant, lui aussi. Derrière, Tottenham a essayé de l'attirer dans ses filets, il a pas voulu parce que Tottenham n'était pas assez bien pour lui. C'est une opinion. Pourquoi pas? Maintenant, quand on voit Rabiot, il vise le top 8 européen, très clairement. Et aujourd'hui, dans le top 8 européen, qui peut lui permettre d'avoir une place dans l'effectif et une place de titulaire? Ça, c'est une grande question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont prêts à donner à Rabiot une place de 8.
Il y avait le Bayern, mais apparemment, ses prétentions sont trop importantes.
Bon, voilà. Donc, tu vois, il est tellement compliqué entre Tottenham, ce n'est pas assez bien pour moi.
Mais,
le Bayern, je veux trop d'argent.
Je pense que dans quelques mois, justement, ses prétentions vont retomber, hein, à un moment donné.
Est-ce que maintenant, le Bayern sera suffisamment patient avec lui pour attendre que monsieur baisse ses exigences salariales? Oui, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Bien parce sûr. Que tu te dis, si dès le départ, le mec il commence à être relou, t'as pas envie de signer 5 ans avec lui, puisque à son âge, c'est des mecs que tu signes 5 ans.
En tout cas, on parle plus de Barcelone. Hein. Vous parlez du Bayern, mais on parle plus de Barcelone pour Rabiot comme sortie de secours.
La sortie de secours.
Ouais, non, mais c'est une belle sortie de secours.
Moi, je veux bien une sortie de secours aussi comme
mais
ça.
Mais non, mais c'est une très belle sortie de secours. Non, mais c'est une très belle sortie de secours. Je veux dire, après voilà.
Remplaçant.
Voilà. Voire remplaçant du remplaçant. Parce que le Barça, quand même, c'est Rakitic, c'est Arthur.
Rakitic, c'est pas sûr que ça dure longtemps encore. Hein.
Oui, c'est vrai. T'as raison, avec l'Inter, on sait jamais.
Non, là, c'est pas de la place.
Ça va être compliqué quand même.
Mais est-ce que Young, oui,
au-delà d'un contrat voilà acté, est-ce que on peut imaginer Adrien Rabiot rejoindre demain Barcelone? Est-ce que Barcelone en a besoin? C'est la question qu'on pourrait se poser aussi, parce que c'est un joueur qui a un comportement aussi, qui a été mis en avant du moins dans les médias avec un mauvais comportement.
Moi, je pense que dans un grand club comme le Barça, comme le Bayern, comme d'autres clubs européens, dans le top 8 en tout cas, il va redescendre. Ça, c'est clair et net, parce qu'on va vite lui faire comprendre que c'est pas le meilleur au monde et que, de toute façon, il a pas forcément sa place de numéro un, donc ça va le calmer.
Et beaucoup de gens ont déclaré ça, justement, qu'en partant à l'étranger, il redescendait
facilement. Ça lui ferait pas de mal, il y en a quelques-uns à qui ça fait du bien. Hein.
Ouais, bien sûr.
Surtout, il va aller dans un club du top 8 européen, mais faut pas oublier qu'il a pas de compétition dans les jambes. Donc il va pas arriver en mode, je suis là, je suis le meilleur, je vais devoir jouer. Il a pas de légitimité, en fait. Il arrive avec un bagage qui est extrêmement faible. Donc, ou il baisse ses exigences en termes de club et il signe pour un club moyen plus, l'AS Roma, on en parlait un temps, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, et auquel cas il peut se faire une place et reprendre sa progression. Mais aujourd'hui, signer dans un club équivalent à celui du Paris Saint-Germain, avec les problèmes qu'il a eu au Paris Saint-Germain, ça me semble très compliqué, parce que tout à l'heure, je lui posais la question de qui a gagné le bras de fer, mais au final, personne ne l'a gagné, ils ont tous les deux perdu.
Ah bah, Mariama avait trouvé un gagnant, hein.
elle a trouvé
Adrien Rabiot, voilà. Non mais chacun a sa vision des choses. En tout cas, je rappelle aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Beurre FM qu'on parle du Paris Saint-Germain, qu'on parle d'Adrien Rabiot et que vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. Olivier, donc du coup, Adrien Rabiot, l'avenir d'Adrien Rabiot, il reste quelques mois et finalement, est-ce que est-ce qu'on peut s'entendre, ce qui peut s'entendre avec la direction du PSG avant de partir, ou ça semble mal parti?
Si on raisonnait, on prenait un peu de hauteur, qu'on réfléchissait un petit peu, bien sûr qu'il faudrait le réintégrer. À un moment donné, la sanction, elle est pas, enfin, voilà. Ils l'ont mis sur le bac, sur le banc pendant plusieurs mois, ils l'ont fait jouer avec, s'entraîner avec la réserve. À un moment donné, si on veut que cette histoire, enfin, vraiment, que chacun s'en sorte un peu grandi, je pense que Tourelle a fait suffisamment d'appels du pied pour le récupérer. À un moment donné, voilà, il faut avancer. Paris a des prétentions en Ligue des Champions. Moi, je pense que un Rabiot, ça peut faire du bien. Ouais, moi, je pense que voilà. Après, est-ce que ça se passera comme ça? Je pense pas. Après, j'ai l'impression que de chaque côté, c'est assez têtu en ce moment.
On parle beaucoup de l'institution PSG. Alors, c'est sûr, Rabiot, le réintégrer dans l'effectif, ça sera un plus pour le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Même Tourelle l'a inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions, parce qu'il se dit, si demain l'histoire va un petit peu mieux, bah, je peux toujours l'utiliser. Maintenant, on a souvent dit, ouais, Paris, c'est un club qui se laisse marcher dessus, etc. Si demain, ils réintègrent Rabiot avec tout ce qui s'est passé, on se dit, ah ouais, quand même, Paris, ils n'ont pas tenu face à un seul joueur qui n'est pas non plus une star mondiale. Donc, on va se dire, oui, un petit joueur ou un joueur moyen, enfin, un grand joueur moyen, aura fait plier l'institution Paris Saint-Germain, ils ne seront pas allés jusqu'au bout. Et ça, on pourra leur reprocher.
Je me permets juste de te couper, mais qu'est-ce qu'il a fait de grave, en fait? Il a juste refusé de re-signer un contrat. Alors, moi, autant il m'a énervé par son attitude, autant à un moment donné. Il a quand même pas, enfin, pour moi, il a rien fait de grave.
Alors, je vais répondre à ça. En fait, il a rien fait de grave dans le sens où c'est pas illégal, c'est son droit.
Non, mais je veux dire, il marche pas sur l'institution.
Non, mais en fait, c'est juste, il faut voir la symbolique derrière tout ça. Le Paris Saint-Germain l'a formé, a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui,
il lui a permis
d'accéder à l'équipe de France, il lui a permis d'avoir ce statut-là. Donc, il aurait pu prolonger et après signer dans un autre club.
Il aurait même dû, je suis d'accord avec toi même.
Voilà, en échange d'une compensation financière pour son club formateur. Aujourd'hui, partir comme ça en allant au clash, en ne voulant pas re-signer, je trouve ça un petit peu malhonnête de sa part.
Mais c'est
subjectif
pas marché,
et c'est symbolique.
Pas marché sur l'institution pour moi.
Non, c'est la suite après où il est rentré dans le clash, où on parle de marché.
Mariama, est-ce que tu partages l'analyse de Saïd?
Bah pour moi, c'est un droit de sa part, hein, de toute façon.
Bien sûr, c'est un droit. Après, c'est juste dans la symbolique.
Non, mais on va pas lui interdire de partir ailleurs ou d'avoir envie de partir ailleurs. Maintenant, oui, certes, son attitude n'a pas été la plus exemplaire. Mais il en a le droit. Donc pour moi, je l'ai toujours dit ici même, hein, que de toute façon, c'était son droit, qu'il avait le droit de se permettre de ne pas re-signer ou de ne pas avoir envie de négocier. Il a été dans les négociations, mais c'est aussi pour faire monter les enchères. Hein, ça, c'est le jeu du marché des transferts.
Il y a des gens qui le font mieux que d'autres.
C'est ça. Moi, c'est le même jeu du marché des transferts. Tout le monde le fait. Les autres agents aussi. Donc après, oui, ça, comme il n'avait pas d'agent, puisqu'il en a un maintenant. Mais il n'avait pas d'agent. Du coup, on lui reprochait parce qu'on se disait, bon, bah, c'est sa mère qui a la main mise sur lui et qui impose ces choses-là. Mais c'est pas qu'une question de. Enfin, c'est lié à une question d'honneur en fait dans tout ça, dans ce conflit entre le Paris Saint-Germain et Rabiot, évidemment, puisque comme l'a dit Olivier, c'est le combat de coq entre les deux parties.
Mais plus que question d'honneur, c'est une question d'ego pour moi là.
Ouais.
Vraiment.
Et ce problème, il l'a eu, pour rebondir avec ce que dit Olivier, il l'a eu également en équipe de France. Brice.
Non, moi je voulais dire que je suis pas d'accord avec Olivier. Moi, je pense que Rabiot a marché sur l'institution PSG. Vraiment, parce qu'en fait,
on l'a lancé là. C'est
non
bon.
mais en fait, effectivement, qu'il a le droit légalement. Il a absolument le droit de faire ça. Maintenant, quand on est un mec formé au club et qu'on déclare qu'on veut être le Steven Gerrard de Paris et que pendant l'été on n'est pas transparent, si t'as vraiment l'intention de partir en fin de saison, dis-le, que le PSG te vende pendant l'été au Barça ou à d'autres, à l'AS Roma ou à l'Inter, où j'en ai rien à faire, à Everton
Brice,
si tu veux.
Je te coupe juste. Il a voulu partir déjà l'intersaison, il me semble.
Et non, mais c'était pas clair cette histoire.
C'était
pas clair. Là où le PSG en fait, et là c'est leur faute à mon avis, ils ont prolongé les discussions en se disant bon, finalement on va réussir à le convaincre. Et là effectivement c'est une erreur, enfin c'est de l'amateurisme. Mais je pense qu'à partir de là, Rabiot aurait dû quand même être beaucoup plus réglo avec le club.
En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler ou pas de ce bras de fer qui continue entre Rabiot et le Paris Saint-Germain. Restez branchés sur Beurre FM et sur Thaï Sport dans quelques instants. On va se retrouver avec Ruben Gouveia, champion de boxe, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. A tout de suite sur Beurre FM.
18h, 19h, Thaï Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Thaï Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM, chers auditeurs, chères auditrices, avec vos consultants, Saïd Hamda, Olivier G, Mariama Benrabia. À chaque fois, je veux t'appeler Boris.
Boris, mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Brice Taïb, c'est bon, je vais arriver. C'est pas possible, je sais pas pourquoi. Et notre invité, Ruben Gouveia. Voilà, champion de boxe qui nous fait le plaisir d'être parmi nous.
C'est quoi ton excuse, Guillaume, là?
Non, y a pas d'excuse. Qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est incroyable, mais vrai, c'est tout de suite.
Hop. Time Sport.
Eh oui. Ça aussi, c'est incroyable, mais vrai. En tout cas, merci Ruben d'être parmi nous ce soir. Tu es champion de boxe. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Et après, on posera des questions.
Donc, bonsoir à tous, déjà, pour commencer. Challenger officiel du championnat de France numéro 1. Donc, du coup, un titre que j'aurais dû disputer en novembre, mais suite à une blessure, j'ai dû déclarer forfait 10 jours avant le combat.
C'est à Cahors.
Ça devait se passer à Cahors, ouais. Donc, du coup, j'ai eu un remplaçant de dernière minute, Rachid Sali, où il y a eu un no contest. Ils ont refait le combat en février et le champion est resté champion. Donc, du coup, on va remettre ça. On remet les gants, on retourne
en. Il va falloir le battre.
Exactement. On va aller chercher la ceinture dans sa chambre.
Et donc, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la boxe?
Bonne question.
Originaire d'Aulnay-sous-Bois, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au ring?
Il y a la réponse dans la question. Ouais. Aulnay-sous-Bois.
Ah, mais non, mais non. Voilà, ça y est. Non, mais
rigole,
ça y est.
Je rigole.
J'attendais qu'il y ait un consultant qui nous sorte justement cette remarque.
Non, alors je suis né au Portugal. Pour tout vous dire, je suis né au Portugal. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans en France. Donc, je suis arrivé dans le 18e, au tout début. Je suis parti à Rochefort. Parce que la force des choses, ma mère, elle était toute seule à nous éduquer. Paris, c'est devenu un peu trop dur pour elle. On a été à Rochefort, en petite province. J'ai commencé la boxe là-bas. Je suis arrivé à 8 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans directement. Donc, je faisais foot et boxe. J'étais plutôt un footeux. Et à 14 ans, j'ai pris vraiment la décision. Je reste à la boxe. Et après, du coup, on est arrivé sur Paris il y a un an et demi avec mon épouse. Et du coup, on est arrivé à Aulnay-sous-Bois. On a posé les valises là-bas. Et avec Nasser Lalaoui et Alim Chalabi qui sont les entraîneurs de Ahmed El Moussaoui, de Najib Mohamedi et l'ancien entraîneur de Jean-Marc Marmec qui a été champion du monde à l'époque. Et du coup voilà.
Donc
voilà.
Pour répondre à la question de notre cher Saïd Hamda, non, ce n'est pas Aulnay-sous-Bois, c'est à l'âge de 8 ans et c'était bien avant. Voilà. On passe à la question suivante. C'était donc justement quand on avance souvent on peut avoir une cassure, une blessure. Comment surmonter justement ces épreuves, notamment à Cahors où tu devais jouer en novembre dernier.
Alors
c'est bien ça.
C'est une grosse partie mentale et aussi d'accompagnement de tout le staff qui est autour et familial. Ça a été très dur, hein. Je suis passé par toutes les étapes. On fait n'importe quoi, on mange, on se laisse totalement aller, etc. On prend du poids et on fait plus attention. Donc j'ai eu un trauma crânien, donc c'était pas grave, mais très grave quand même pour un boxeur. Donc du coup, je suis vraiment passé par toutes les couleurs. Et après, il y a le manque et puis la passion, l'envie et le goût d'inachevé. Et je sais qu'on a le potentiel et les qualités d'aller chercher ce titre. Donc on a dit bon ben on retourne au travail et ça reparti depuis 3 semaines, on s'est remis au boulot.
Et donc le traumatisme crânien, c'était à la boxe aussi?
Ouais, à l'entraînement. Ouais. À l'entraînement, un coup et une grosse douleur à la tête. Et je remercie mon entraîneur que heureusement il était bienveillant sur moi et qui m'a dit tout de suite d'arrêter la mise de gants et il a très bien fait parce que 2 jours après j'étais alité pendant 10 jours et j'ai arrêté trois mois le sport.
Et donc du coup les objectifs pour 2019, si on peut avoir un petit résumé de ce que sont les objectifs personnels, à titre personnel, puis également professionnels.
Alors, du coup, les objectifs, c'est la fédération, à ma chance, m'a gardé challenger. Je suis toujours le challenger numéro 1. Les enchères, donc savoir celui qui va disputer le match, donc soit chez lui, soit chez moi, soit dans une autre ville, une tierce personne, se dispute le 13 mars. Celui qui met la plus grosse enveloppe ira boxer chez l'un ou chez l'autre. Après, le combat doit se disputer avant le 12 mai. Donc, ça laisse une large préparation, mais assez courte aussi.
Et s'il ne se dispute pas avant le 12 mai?
Si ça se dispute pas, bah, généralement, ça se dispute, sinon il se fait destituer de son titre, ou à part s'il abandonne son titre.
Saïd.
Moi, j'ai une question, mais je veux pas que tu me casses la gueule après la fin de l'émission.
J'annonce tout de suite. Il est déjà en train de s'échauffer.
Si vous m'entendez pas la semaine prochaine.
Il s'échauffe là.
Il m'a démarré.
Tranquillement, prépare ta question.
Non, j'ai regardé un peu sur tes derniers combats. Sur les 4 derniers, t'as perdu 3 fois et une fois match nul. Alors que les premiers combats, tu les as presque tous gagnés. Comment expliquer ça à la fin?
Tu provoques là quand même, Saïd.
Ouais, je sais, mais je fais mon travail, ok?
Attention, je connais ta voiture. Hein.
Oh non, ça va, il va pas s'attaquer à toi.
Je pourrais même t'aider à la casser, sa voiture.
Non, il a de la chance, il est venu en trottinette aujourd'hui, ça va. Il est sauvé.
Non, du coup, comment ça s'est passé? Le plus dur dans la boxe, c'est de boxer à l'extérieur. À l'extérieur, on sait qu'il y a un public. On est bien accueilli, ils gagnent pas d'argent, hein, les arbitres, hein, c'est des personnes bénévoles. Ils sont là, le moment que tu leur mets un bon hôtel et ils ont un bon week-end, ils sont frais payés. Du coup, si ça devient serré, on privilégie le local, ce qui est tout à fait logique. Donc, par exemple, la défaite en novembre 2017, si je me rappelle bien, finale de la Coupe de la Ligue, si on regarde la tête de l'adversaire, qui était champion de France derrière, je pense pas que j'aurais dû perdre. Vous pourrez regarder sur mon Facebook, il y avait live en direct et vous vous en jugerez vous-même. Après, même le match nul, il est chelou. Après, j'ai rencontré Francesco Patera, que Marvin Petit vient de rencontrer, champion d'Europe des poids légers. Et ben là, j'ai pris une vraie défaite. Et si on peut dire, la première vraie défaite que j'ai eue de ma carrière, où j'ai rencontré quelqu'un qui était très solide, qui était très bon, techniquement, physiquement. Et qu'on a vu que ce n'était pas du tout ma catégorie, ce que j'ai fait l'effort de monter de 2 kilos. On dit que c'est rien, 2 kilos, mais c'est beaucoup dans notre sport.
Et comment on se relève d'une grosse défaite ?
Ben on perd du poids d'abord.
Non mais mentalement, comment s'en remettre ?
Toi aussi tu vas te faire frapper.
En même temps ça nous permet de se juger, savoir est-ce qu'on a vraiment le niveau d'un certain palier ou est-ce qu'on l'a pas. Je pense que j'ai un certain niveau, le niveau européen je peux l'avoir. Et sauf que après il faut prendre les étapes par étapes et les prendre dans le bon sens. Et pour percer des murs, faut un bon forêt. Et donc l'équipe, elle est là. J'ai un bon forêt, je pense, normalement, dans mon artillerie. Donc du coup, on va pouvoir...
Et quand tu parles de défaite un peu injuste ou du match nul, comment toi, tu arrives à retrouver la motivation pour te dire déjà de ne pas avoir envie de tout démonter sur place et puis après, la motivation pour retourner au combat, en fait?
Ouais, ça, c'est le plus...
Parce que c'est dur, quand même. Tu t'entraînes des mois pour un combat. Exactement. Tu sens que ce n'est pas légitime, cette défaite. Il faut y retourner après. Enfin, comment tu fais en fait mentalement?
Exactement. Là, c'est une très bonne question parce que c'est cela qui
nous
fout encore plus. C'est ton métier, je crois.
Là, t'es dans la provocation aussi, là.
Je viens d'y être.
On va se faire défoncer.
Non, c'est vrai que ça, c'est le plus dur et le plus ingrat dans notre sport. Mais malheureusement, on le sait, on a signé pour ça. Et donc, du coup, on se dit, est-ce que je vais revenir? Je vais pas revenir. On met 2-3 semaines des fois à revenir à l'entraînement. Mais après, l'envie, elle revient parce qu'avant tout, on a commencé la boxe, même si on devient professionnel et c'est notre métier, ça reste quand même une passion et un loisir avant tout. On est arrivé dans ce sport pour normalement un loisir, divertissement d'enfants qu'on faisait ça à l'école pour faire une activité sportive.
Ça me permet quand on a le mental, on reste jamais sur une défaite.
Exactement.
N'est-ce pas, Mamad?
Eh ben voilà. Merci à Mariama Benrabia d'avoir introduit notre cher consultant Mamadou Lamine-Mané qui nous fait le plaisir d'être avec nous.
On est vendredi.
En retard, mais il est avec nous dans ce studio.
Et qui boxera contre Ruben à la fin de Time Sport aujourd'hui.
Merci de rappeler. Voilà. Donc les enchères, c'est à partir de maintenant.
Il est pas sur un même.
Voilà, Mam, tu voulais poser une petite question à notre invité?
Oui, Ruben, je voulais te demander, après ces présentations,
présentations
très très gentilles. En fait, on a le cas de beaucoup de boxeurs qui vont se préparer à l'étranger et qui vont chercher des conditions à l'étranger qu'ils ne trouvent pas en France. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu y as déjà songé? Et si c'était le cas, où tu irais?
Moi, j'aime bien la maison. J'ai mon confort. Non, déjà... l'étranger, c'est bien, c'est très bien en soi, mais ils font exactement la même chose qu'on fait ici.
Avec les mêmes moyens, les mêmes conditions, les mêmes infrastructures?
Ils partent avec différents moyens.
D'accord.
C'est la différence. C'est qu'en fait, nous, par exemple, moi, je suis professionnel, mais je suis professionnel dans tout. C'est moi qui vais chercher mes sponsors, c'est moi qui me promouvois, c'est moi qui... Et en même temps que je travaille à côté pour gagner mon argent... Il y en a d'autres, c'est différent. On leur donne déjà un peu tout sur un plateau d'argent. Donc, c'est là qui est notre différence entre eux qui partent à l'étranger, mais qui est très bien, qui est ultra enrichissant, puisque l'étranger, ça nous enrichit aussi. Il y a une autre culture, il y a une autre culture du sport et de la boxe, et humaine, et ces relations-là vont les enrichir plus fort, certainement. Je suis déjà parti à l'étranger en camp en Espagne, j'ai vu d'autres choses, c'était bien. C'était même très très bien. Mais du coup, on fait exactement la même chose qu'à la maison. Ça reste quand même de la boxe, de la préparation physique. C'est exactement les mêmes choses, sauf que c'est avec un autre public et un autre langage.
Guillaume, aujourd'hui, tu parlais d'entourage et tout. Alors, tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas au détriment peut-être de ton sport et de ta préparation? Est-ce que tu as la possibilité, ou tu le veux peut-être pas, t'entourer, avoir une équipe qui puisse t'épauler et puis te soulager sur certaines tâches? pour que tu puisses te concentrer uniquement sur ton sport et ta préparation.
Ça, c'est le rêve. Je pense que on doit être 750 licenciés professionnels. Et je pense que c'est le rêve de la plupart. Et malheureusement, qu'il n'y a que 10% qui ont tous ces moyens. Donc, oui, ça, c'est l'objectif. Et je pense que c'est en train de se mettre en place avec la nouvelle commission pro qui est en train de se mettre, la ligue professionnelle qu'ils ont créée, que vraiment professionnaliser notre métier. Parce que on a quand même un numéro de tiré, on paye des impôts derrière.
Bien sûr.
Quand, à chaque fois qu'on fait un match. Mais malheureusement, on n'est pas réellement pro, on est plus intermittent du spectacle et qu'on doit faire tout le reste à côté.
Justement, est-ce qu'on arrive à en vivre? Parce que c'est compliqué, il faut financer tout ça, toute la communication, tout ça autour des combats.
Non, on n'en vit pas.
Donc on travaille à côté.
Voilà, on travaille. Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis coach sportif. Et en même temps, je suis coach sportif dans une clinique psychiatrique. Donc la nouvelle Héloïse, que je salue tous mes collègues en même temps. Et je me sers de la boxe comme thérapie pour le cadre médical. Et du coup, on doit obligé de travailler.
Moi, je voulais revenir.
Rapidement, je voulais revenir
sur les arbitres où tu disais quand ils étaient accueillis par le boxeur qui combat à domicile, ils étaient bien, ils n'étaient pas Ibis Budget, c'était plus Ibis Style, tout ça. Est-ce que ça ne devrait pas changer et avoir un truc pour les arbitres qui est plutôt indépendant? Puisque là, ça désavantage le côté sportif.
Bien sûr, mais est-ce qu'on va dire à des bénévoles de payer leur chambre?
Ouais, bah oui.
Voilà. Donc, malheureusement, c'est on est une fédération où la plupart sont bénévoles et ne sont pas professionnels.
Pourquoi les frais ne seraient pas partagés entre les deux boxeurs? Comme ça, au moins, il sait qu'il a dormi 50% grâce à l'un et 50% grâce à l'autre. Non, mais j'essaie de trouver des solutions, monsieur, pour la France.
Bien sûr. Il cherche ta bagarre, c'est tout.
La fédération, malheureusement, l'impose, mais la fédération, c'est une association de loi de 1901.
Et Ruben, le rêve absolu, du coup? Ton rêve absolu?
Le rêve absolu, déjà... Premier objectif, champion de France.
Ouais.
Après, on essaye de gravir l'Union Européenne. Et après, on verra.
Il faut lui dire le monde. Je sais que tu l'as avancé.
Bien sûr. J'ai pas envie que ça reste un rêve. Soit ça devient un objectif, et soit on le rêve. Moi, je préfère les vivre.
Chapeau.
Donc, on finit
sur une belle phrase. C'est bien ça.
Voilà, mais je voulais juste savoir par rapport à la boxe, ça prend combien de temps à peu près sur une semaine? Seulement, justement, les entraînements. Les démarches à côté, ça prend combien de temps?
Il y a Guillaume qui cherche un planning.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est 7 jours sur 7. On dort boxe, on vit boxe, on rêve de boxe. C'est tout le temps, il y a tout le temps la boxe. Ma vie est consacrée à la boxe.
La vie.
Ça veut dire, du coup, ma vie familiale est entourée par rapport à ce métier-là. Donc, du coup, je m'entraîne le matin à 6h, on s'entraîne à 17h, et après, on enchaîne notre journée de travail et tout est planifié par rapport à ça.
Il y a des jours de repos quand même pour les muscles.
Même pas un jour.
Non, même pas.
Garde quoi, le samedi, mais on va.
C'est bon, ils se reposent la nuit, Mariama, tu crois? On travaille. Non,
elle veut savoir.
Un peu de décrassage et.
Non, mais dans tous les sports, on prend un peu de repos, au moins pour
les muscles. Mais il est beaucoup plus light et c'est vraiment très tranquille, mais on reste toujours en activité un petit peu.
D'accord.
Nous, on a le problème du poids.
Et donc, le prochain rendez-vous, c'est en mars?
On ne sait pas, avant le 12 mai, c'est ça?
Voilà, avant le 12 mai. Mars, c'est les enchères.
Juste une question très importante quand même. Où est-ce qu'on pourra voir ce combat? C'est-à-dire, où est-ce qu'il sera diffusé?
Alors, ça, c'est soit... je pense que si lui, il a un promoteur, peut-être Canal+, en rediffusion ou en direct. Ou sinon, l'idéal, c'est si nous, on arrive à l'organiser à Aulnay-sous-Bois. Là, ça serait l'idéal. Et du coup, il y aurait deux championnats de France, dont Yaya Tlaouziti de mon club qui est champion de France actuel. Et du coup, il y aura peut-être un deuxième ce soir-là.
Et dans ce cas-là, la mairie, elle peut aider, la mairie d'Aulnay-sous-Bois?
La mairie a déjà finalisé tout le budget pour ce championnat de France-là. Et comme moi, j'étais blessé, on ne savait pas ce que j'allais faire. On a préféré dire, bon, écoute, on fait une pause et après, on verra. Et comme je suis revenu et j'ai les crocs, j'ai la dalle, du coup, je cherche le financement.
Donc, ce qu'on peut te souhaiter de mieux, c'est de trouver un financement justement pour organiser ça à Aulnay-sous-Bois.
Exactement.
Et ben voilà,
l'appel est lancé.
Sur Beurre FM. Il y en a peut-être qui vont répondre. Il y a peut-être ton téléphone qui va sonner dans 5 minutes. Qui sait, on sait jamais. En tout cas, restez connectés sur Beurre FM. Merci pour cette interview, pour cette présence dans notre émission. Et donc on pourra réécouter évidemment en podcast cette interview sur beurrefm.net. Restez branchés sur Beurre FM et sur Thaï Sport. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de la Ligue Europa, notamment de la qualification de Rennes. On va également parler de Maxime Lopez. Lopez. La montée en puissance, le jeune métronome de l'OM reste sur 9 titularisations d'affilée en Ligue 1. Ça déplaît un peu à Brice Taillé, vu qui tire un peu la tête dans ce studio. Ah,
pas du tout, pas du tout, je suis hyper concentré.
Bon, à tout de suite sur Beurre FM.
18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
À fond la caisse sur Beurre FM et sur Time Sport avec vos consultants Saïd Amda, Olivier G, Brice Taïb, Mariama Benrabia, Mamadou, Brice.
Il a réussi à dire.
Bah, t'as vu,
il a une seconde de latence.
Merci Julien. Merci Julien.
Dorian Maurice. Et Mamadou, l'ami de Manet, notre inséparable, notre vidéaste. Voilà. Et Alexandre, c'est bon? Comment ça va, Alexandre?
Ça va, Guillaume, super. Je suis là juste en guest, venu faire un petit coucou, dire bonjour à tout le monde et surtout vous présenter.
C'est
super
Alexandre,
boxeur,
c'est l'assistant d'antenne ce soir. Il rapporte les verres d'eau autour de la table.
Exactement.
Alors, il est mon coca,
Alexandre. Et après, je fais le ménage.
Et nous a ramené quand même un invité quand même de classe, quand même champion de boxe, quand même Ruben Gouveia, je le dis bien.
Gouveia. T'as mieux intérêt, il va te péter la gueule à la fin.
Je crois que ça va arriver. On n'est pas loin.
En fin d'émission, on y arrive.
Moi, je mets pas d'enchères, en tout cas, je te le dis. En tout cas, Ligue Europa, Betis Séville, Rennes, c'est tout de suite, c'est le duel. Oula.
Time Sport. Le duel.
C'est la victoire.
Là, ça risque d'être un duel entre moi et le réalisateur. Là, je te le dis, je le regarde droit dans les yeux.
Alors, c'était écrit la victoire.
Non, il est un peu endormi.
Est-ce le duel ou la victoire?
Oui, d'accord. Certes, c'est une victoire de la part de Rennes. On en parle dans quelques instants, mais toi, il y aura un duel aussi. Hein. À la fin de l'émission.
Alors, on le refait. C'est la victoire.
C'est la victoire.
Time Sport. Le duel.
Voilà, le duel. Ben oui, passons. Après la victoire de Rennes, on va passer à un vrai duel puisque, évidemment, il y aura Arsenal. Arsenal le 7 et 14 mars, voilà, en huitième de finale. C'est beau quand même, hein. Rennes en huitième de finale. Ils l'ont fait cet exploit hier, face au Betis Séville. On va revenir un peu dessus. Le match aller. Un 3 partout où ils s'étaient fait où ils sont fait revenir dans les derniers instants et là 3-1 ils ont réussi à tenir bon face au Betis Séville. On va un petit mot sur ce match, Saïd.
C'est d'autant plus impressionnant que le Betis n'avait pas perdu en Ligue Europa. On avait vu au match aller, on s'était dit que c'était compliqué puisque la deuxième mi-temps de Rennes était exécrable, ils gagnaient 3-1 à la mi-temps et ils s'étaient fait reprendre assez lamentablement. Donc on s'était dit, on était plutôt sceptiques, on s'était dit que là-bas, à l'extérieur, ils allaient galérer. Finalement, ils l'ont fait. Et même Ben Arfa a épaté nos amis espagnols. Maintenant, je suis très, très pressé de voir le match qu'il y aura face à Arsenal. Puisque pour moi, Arsenal est totalement prenable. C'est l'équipe pas très fiable en Première Ligue. Donc, c'est un très, très beau match pour le championnat français. Ça va mettre une belle vitrine. Et je pense que Rennes a une carte à jouer.
Alors, ils recevront Arsenal au match aller. Olivier, un petit mot peut-être sur le match d'hier et puis le match qui...
Oui, bah c'est hyper rafraîchissant. Ça fait du bien, la Ligue Europa. Tout le monde s'en cogne toute l'année quasiment. Et on s'y intéresse quand une équipe sort enfin des poules. L'OM et Bordeaux nous ont bien montré cette année. Non, mais c'est une réalité que franchement, c'était n'importe quoi. Rennes, c'est un peu plus battu. On en voit le résultat aujourd'hui. C'est beau. C'est une région qui attendait ça à un moment comme ça depuis toujours puisque c'est historique. Les matchs aller et retour, je sais pas si vous avez vu, ont été inversés. Ça devait être le 7 Arsenal, le 14
exactement.
À Rosen Park, c'est inversé parce qu'il y a deux équipes de Londres qui jouent le même soir. Donc ça sera le match aller à Rennes finalement, le 7, finalement, ouais. Et le match retour à Arsenal. Oui, moi je trouve que c'est chouette parce
arnaque.
Que... Ouais, grave. Mais en tout cas c'est super chouette pour le foot français d'avoir une équipe qui a vraiment envie et qui va se donner certainement à fond pour aller le plus loin possible. Et Arsenal est prenable, moi je suis assez d'accord avec ça.
En tout cas hier parmi les consultants de Time Sport, ils n'étaient pas nombreux à croire à une victoire, un exploit de la part de Rennes face au Betis Séville. Notamment Mamadou, je sais pas
mais j'étais pas là hier mais
tu ne faisais pas partie des
ouais, coupables quand même.
Non,
voilà, tu es coupable quand même.
Je faisais partie justement de ceux qui voyaient pas beaucoup de il y a pas beaucoup d'espoir pour que Rennes puisse faire l'exploit parce que l'exploit en plus il
est. Et ben notre coach Claude Tollé lui voyait un exploit en tout cas.
Il nous l'a fait comprendre sur les réseaux qu'il était le seul à avoir eu raison. On sait qu'on a eu raison et là il va surfer dessus pendant pratiquement 15 jours je pense à mon avis.
Mariama, un petit mot sur ce match, cette qualification et surtout Rennes qui retrouve Arsenal en huitième.
Eh bah, tactiquement, c'était très bien joué de la part de Julien Stéphan. Je crois qu'ils ont très bien géré les temps forts et d'y arriver comme ça, de réussir cet exploit là-bas chez eux avec 52 000 abonnés, comme on le sait tous, c'est exceptionnel. On s'y attendait pas. Maintenant, le Real Betis restait sur 3 nuls et une défaite, il me semble. Donc, ils sont pas dans la meilleure période de la saison. Donc, je pense que c'est un peu lié aussi à ça. Tant mieux pour Rennes, c'était parfait, c'était super. On s'attendait pas spécialement à ça, mais c'est une belle surprise. Maintenant, je trouve étonnant que tout le monde y croit contre Arsenal. Je pense qu'il y a quelques semaines, personne ne l'aurait dit.
Sûr,
aujourd'hui, c'est parce que justement, dans l'euphorie de ce match-là, on s'est dit oui, Arsenal est prenable.
Et que Arsenal, quand même, c'est des vagues. C'est une série de 3-4 matchs où tout va bien, et une série de 3-4 matchs où c'est super compliqué.
Mariama, es-tu en train de dire que je suis une girouette?
Je ne l'ai pas dit. Non, en tout cas, ça ne vient pas de moi.
Une girouette, mais il retourne sa veste souvent, c'est surtout ça.
Voilà. En tout cas,
j'ai l'argent d'acheter une veste double face.
On reste sur le match, les amis, entre Rennes et Arsenal. Surtout le match d'hier, Brice.
Je crois que c'est à mettre au crédit quand même de Julien Stéphan, enfin qui est un super coach en devenir. Moi, je suis pas d'accord avec Mariama quand elle dit que c'est juste le Real Betis qui est un peu dans le creux. Je pense quand même que c'est à mettre au crédit de Julien Stéphan, qui est un super coach, très bon discours. On le dit pas assez, on a quand même des très très bons coachs en France. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une très bonne chose aussi pour le football français en général, parce que au niveau des points UEFA, on est vraiment en galère. Et une dernière chose, je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle d'avoir le match retour à Arsenal, parce que, comme disait Mourinho, à partir du moment où t'es en prolongation, si jamais il y a une prolongation, le but que tu marques, il compte double. Et là, c'est plus difficile pour l'autre. Donc, d'ailleurs, c'est un grand débat en ce moment.
Faut déjà y aller
en prolongation. Non,
mais faut y aller. D'accord. Oui, mais bon, t'as gagné à Séville. Non, mais t'as gagné à Séville. Voilà, c'est possible.
Il faudra pas encaisser de but à domicile.
En tout cas, les Bretons ne partiront pas favoris face aux Gunners. Ça, c'est sûr. Actuel cinquième de première ligue et parmi les prétendants à la victoire en Ligue Europa. Jusqu'où ils iront à peu près? C'est compliqué de le dire.
Boule de cristal, bouge pas.
Attention. Olivier.
Non, il y a du lourd cette année. Non, mais c'est vrai qu'en Ligue Europa cette année,
on attendait un résultat.
Il y a du level. C'est chouette. Non, mais enfin une Ligue Europa qui a du poids, parce que franchement, c'est vrai que souvent les galvaudés ou là, je crois que cette année, on a Napoli qui est encore là, on a Chelsea, on a Arsenal. On a l'Inter aussi qu'elle a encore, je crois. Bref, ça fait du bien. On a le Zénith aussi qui joue pas si mal que ça. Cette coupe-là, où ira Rennes, je sais pas. Eux se considèrent comme le petit poussé. Je pense qu'ils ont pas réellement tort. Après, t'as des petits clubs comme le Slavia aussi.
Ah, t'as quand même Krasnodar, hein.
Ouais, t'as Krasnodar. Mais du coup, bien sûr, mais il y a toujours des outsiders. Mais je trouve que ça va être compliqué pour Rennes d'aller peut-être très loin. Mais en même temps, ils ont rien à perdre. Ils ont tellement rien à perdre que ça a donné un match superbe hier soir. Donc moi, je me dis pourquoi pas encore une fois.
Saïd, où ira Rennes?
Mais je sais pas, je vais demander à Olivier.
Boule de cristal, pareil.
Genre, il est mieux informé que moi. Non, je sais pas. Ça va être difficile d'affirmer qu'ils vont passer Arsenal. Là, c'est plus le côté français qui parle. Nous, on aimerait bien, voilà, qu'ils fassent une petite percée dans cette Ligue Europa. Maintenant, Arsenal, ça reste quand même un gros défi. Ils ont des très gros joueurs. Alexandre Lacazette, Pierre Aubameyang devant. Ça reste
il y a deux secondes, tu sais que tu les voyais bien passer.
Il a changé d'avis.
Non, j'ai pas changé d'avis.
Entre-temps, il a entendu le jingle, il a entendu Mamadou la première fois.
Sinon, il a raison, j'ai retourné la première fois.
Vous écoutez pas ce que je dis. Alors, écoutez, je vais refaire les nuances.
Non, plaisante.
Je suis désolé. Non, je disais juste que moi, à titre personnel, je vois bien Rennes passer. Maintenant, à titre de journaliste qui fait bien son travail, je dirais qu'Arsenal a quand même l'avantage avec des joueurs de plus grande qualité, un coach de plus grande qualité, et un championnat aussi où le niveau est plus élevé. Donc, ils vont jouer. Arsenal aura un meilleur rendement en première ligue au niveau de l'intensité. Mais sinon, Arsenal reste quand même une équipe plus ou moins peu fiable sur les résultats, d'où les petites chances de Rennes de créer quelque chose.
En tout cas, le match entre le Stade Rennais et Arsenal, ça sera également l'occasion d'avoir de nombreux anciens de la Ligue 1 de retour en France. Mamadou,
Tu parles de Koscielny, par exemple.
Je parle de
Aubameyang, Lacazette,
Petr Cech,
etc.
Oui, bien sûr. Mais
t'es très Rennais, Petr Cech qui se régale.
Lacazette.
Mais pour le coup, et au risque de peut-être retourner ma veste, parce que j'avais été très sceptique quand on
parlait. Mais c'est la soirée retournage de
décidément.
J'avais influencé ma veste. J'ai jeté ma veste, je l'ai enlevée. Mais juste pour dire que je pense qu'on peut tabler sur un 50-50, parce que là, Rennes est en...
À la fin de l'émission, on va dire que Rennes est plus grand que le Real.
Olivier vient de dire une chose, c'est que je pense que le verrou psychologique, il a sauté. Donc aujourd'hui, tout est possible. Ils ont rien à perdre.
Mais oui.
Les attendait là.
Ils sont quand même des sacrés joueurs, tu penses.
Oui, puis ils ont prouvé qu'à l'aller, malgré la petite faute qui a fait qu'ils souffrent.
Ronaldo à côté de Clément Grenier, c'est rien.
Rejoindre dans les dernières minutes, ils ont prouvé qu'ils sont capables de tenir la pression à l'extérieur aussi. Et donc là, aujourd'hui, je pense que tout est ouvert.
En tout cas, les Rennais, ils auront cependant l'avantage, comme le disait Mariama, de recevoir d'abord avant de se déplacer à Arsenal. Brice.
Non, c'est selon. En fait, c'est selon. Enfin, il y a des gens qui disent qu'effectivement, c'est un avantage de recevoir au retour. Mourinho disait encore, il n'y a pas si longtemps, que c'est un avantage d'aller plutôt à l'extérieur au retour. Donc voilà. Après, par rapport au verrou psychologique, faut aussi quand même faire attention. Enfin, alors moi, encore une fois, moi, je suis comme Saïd, je pense quand même que les Rennais ont leur coup à jouer. Maintenant, faut savoir que la
dire comme Saïd, il a donné deux avis bien différents.
Oui, c'est vrai. Tu dis
comme Saïd, ça veut dire quoi pour moi?
Lequel de Saïd?
Tu remarqueras que j'ai mis un col roulé réversible.
Saïd, il a dit 50-50, hein. Donc, évidemment.
Non, il a dit à titre. Non, il a dit à titre perso.
Merci.
À titre perso.
Merci, Brice.
Il croit, mais comme journaliste qui fait son boulot et quand tu regardes sur le papier.
Ah ouais, normalement, ça c'est le commentaire engagé, ça.
Merci,
ça c'est le gars qui se mouille, quoi.
Mais non, mais parce que
personnellement,
attends,
je pense que
objectivement,
ouais,
objectivement, Olivier, objectivement, tu regardes sur le papier, tu dis comme qu'Arsenal est supérieur.
Évidemment.
Ah,
évidemment.
Ça veut dire que la dynamique, tout ça,
justement,
fait que ça va emporter Arsenal.
On a pris des risques, tu vois. On a donné un avis qui n'allait pas dans la logique. Et tu nous le reproches.
Ah non, du tout. Moi, j'ai donné le même avis que vous à la base. Simplement,
c'est pas possible. Non, mais alors, attends, sinon, on fait un tour de table et chacun donne son résultat. Et puis voilà, on va avoir des
problèmes. On aura l'occasion.
On aura un boxeur qui est là. Moi, à côté de moi, j'ai Ruben. S'il y a un problème, vous allez voir.
Ruben, un petit avis sur Rennes, sur la qualification de Rennes. Et puis également.
Rennes se qualifie.
Ouais, Rennes se qualifie.
Ouais.
Moi, je suis d'accord avec Ruben.
Voilà.
Allez, moi, je vais dire Arsenal.
Arsenal. Est-ce qu'ils vont réussir à battre Arsenal? Compliqué de le dire, pour le moment.
Compliqué, mais après Arsenal c'est un gros nom de club, mais c'est pas la grosse équipe d'Arsenal.
Ça c'est sûr. Voilà, on finira là-dessus. Je finirai en disant que le tirage est sort des huitièmes de finale. Il y a Arsenal contre Rennes, Chelsea contre le Dynamo Kiev, le Francfort contre l'Inter Milan, le Dynamo Zagreb contre Benfica, Naples contre Salzbourg, Valence contre Krasnodar ou encore Séville contre Slavia Prague et Zenit Saint-Pétersbourg contre le Villarreal. On va passer à notre sujet que
PSG.
Non, ça on a dit on n'a pas le temps. C'est trop grand. En tout cas, on va parler de Maxime Lopez, de la Ligue 1. C'est parti, c'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Le mode pressing. Et oui, le mode pressing, c'est Maxime Lopez. La montée en puissance, le jeune métronome de l'OM reste sur 9 titularisations d'affilée en Ligue 1. Je suppose que c'est un Marseillais qui a fait le conducteur. On verra bien, ou pourquoi pas un Parisien. En tout cas, pour parler de Maxime Lopez, petit à petit, le jeune milieu de terrain s'installe dans le 11 Marseillais, mérité ou faute de concurrence. Saïd.
Non, mérité, faut pas toujours renier les performances des uns et des autres. On en parlait ces derniers temps pour l'équipe d'Algérie, donc c'est que ses performances ont été remarquées. Il est pas là pour être là. Maintenant, aujourd'hui, il a déclaré qu'il gardait l'Algérie de côté, il a pas voulu les brusquer. Il a dit, bon, il pensait à l'équipe de France, etc. Je réponds pas du tout à la question. Mais oui, non.
Ça y est, t'es reparti sur l'Algérie.
Je suis parti
non, on parle de Maxime
tirade.
Lopez à Marseille.
Non. Pour répondre à la question plus concrètement, Maxime Lopez à Marseille, c'est mérité et je pense que on l'attendait. Ça arrive même peut-être un peu tard puisqu'il a commencé à intégrer l'effectif pro très très jeune et on se disait c'était un peu par intermittence, un coup il jouait pas. Et là, c'est bien qu'il se pérennise au milieu de terrain, surtout que c'est un pur produit de la maison, donc double coup gagnant pour l'Olympique de Marseille.
Olivier,
je crois que ça fait 9 matchs qu'il est de suite, là, qu'il joue ou il est titulaire. On le compare un peu rapidement à mes yeux à un Iniesta ou un Xavi. Même lui le disait dans un commentaire aujourd'hui que ça lui allait pas du tout cette histoire. Il faut le laisser continuer de grandir. C'est un garçon qui a du potentiel, qui a eu du mal à s'affirmer pendant une certaine période. Maintenant, moi, je pense qu'il faut laisser la fin de saison voir. Il fait du bien pour le moment à l'OM. Tant mieux. Après, laissons-le grandir encore un peu.
Mamadou,
bah moi, c'est l'exemple type du joueur qu'on aurait dû intégrer tout de suite et pas aller par palier. On est toujours trop frileux en France. Enfin, je vois comment se comportent les Hollandais, les Belges, les Allemands. Un joueur de 17 ans de cette valeur-là. Il faut tout de suite l'étalonner, le mettre sur le pitch, parce que faire attendre pourquoi? Et Marseille a eu souvent des problèmes pour composer son équipe par rapport à certains milieux de terrain et autres. On a parlé ici souvent des achats qui ont été faits, que des mauvais achats, enfin du budget qui a été mal utilisé. Maxime Lopez devait être intégré dans l'équipe le plus rapidement possible, comme le petit Camara. Le petit Camara, on a fait des essais de prestidigitateur derrière avec du Rolando, avec en fait sur cette charnière centrale on trouve pas les joueurs. On a un joueur comme Camara qu'on aurait pu placer tout de suite, mais là aussi on fait des manières, on le met quitte à, bon, il est là, moi je pense que il est là à sa place, mais il aurait dû être encore plus tôt et plus rapidement titulaire.
Mariama, c'est quoi sa marche de progression? Oui. à Maxime Lopez.
Alors, d'abord,
à Marseille.
On voulait parler du PSG et de l'accord avec Accor.
On aura l'occasion d'en reparler.
Oui, bah, j'espère bien. Je reviendrai.
On est juste,
il faudra m'inviter.
On est juste au début de l'accord. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, les autres.
Non, mais pour revenir sur Maxime Lopez, j'aimerais juste dire que oui, il a sa place aujourd'hui dans une équipe médiocre, enfin, dans le niveau médiocre que l'OM a actuellement, enfin, depuis quelques semaines déjà. Donc, après, pour dire que Maxime Lopez est exceptionnel, je ne le dirai pas. Parce que je ne le trouve pas.
Il a une bonne marge de progression.
Il faut lui permettre de devenir exceptionnel, mais comment? S'il joue pas, s'il reste sur le banc de touche et s'il est dans les tribunes, parce qu'on fait des mauvais choix, ça jamais été.
Donc vous estimez que c'était un mauvais choix, donc à la base.
Que j'ai dit que c'était un mauvais choix.
Non, à la base de qu'il ne joue pas.
Oui, mais enfin, il y a rien de vaut l'expérience. Et pourquoi ne pas le mettre? Quelle est la prise de risque dessus? Alors parce qu'on a vu la prise de risque qu'on a fait quand on a pris des mauvais choix, des mauvais joueurs.
Mais 9 titularisations, c'est pas exceptionnel. Combien de joueurs ont eu 9 titularisations d'affilée en Ligue 1?
Ouais.
On en parle aujourd'hui parce que
c'est nouveau et
probablement
prometteur.
Simplement parce qu'il a été appelé par Jamel Belmadi pour l'équipe nationale algérienne.
Non, pas que ça.
Pourquoi?
Il a une bonne
marge. C'est la question que je pose
aujourd'hui. Il a une bonne marge. Il joue de plus en plus avec l'OM.
Oui, il joue de plus en plus, mais il n'est pas le seul à jouer de plus en plus avec son club.
Non, là, ces derniers temps, c'est qu'il a quand même pas mal fluidifié le jeu marseillais pour le coup. S'il y en a quelques-uns qui ont fait du bien, il peut en faire partie sur les derniers matchs.
Dans ce jeu médiocre.
Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là.
Voilà. En tout cas, Mariama, elle n'est pas convaincue par Maxime Lopez. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à Saïd Hamda, merci à Olivier G, merci à Mariama Benrabia, merci à Brice Taïb, merci à notre invité Ruben Govilla. Et merci à Mamadou Laminane.
Govilla,
c'est bien ça. Et à notre réalisateur, Florent Bizet. Allez, à tout de suite sur BeurreFM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM.